Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+. Il est 19h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi 16 avril, gestion de l'eau des communes économes. Les résultats de l'édition 2024 du label Communes économes en eau ont été révélés jeudi dernier. Cette année, les 18 communes de la métropole de Montpellier ayant présenté leur candidature ont toutes été acceptées. Et dès lors, elles s'engagent sur une vingtaine d'actions autour de trois thématiques. Étudier, équiper et sensibiliser. Symboliquement, a été offert à chaque commune lauréate un amandier sauvage, réputé apprécier les climats chauds et secs, accompagné d'une poterie en céramique appelée Oya, qui permet d'arroser de façon économique et écologique. Petit bois du Ramassis, on y voit clair. Hier a démarré un chantier d'éclaircissement dans la forêt communale de Sète. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement forestier, permettant de programmer les opérations nécessaires pour éclaircir et renouveler la forêt, favoriser la biodiversité, ainsi qu'entretenir et améliorer les équipements d'accueil. L'opération actuelle prévoit la coupe de pins trop dense. À noter toutefois que quelques désagréments sont à prévoir, notamment l'interdiction d'accès au public pour une durée estimée à un maximum de 2 semaines, ainsi qu'une nuisance sonore due à l'utilisation des tronçonneuses. Journée de lutte contre l'esclavage des enfants. Parallèlement à la journée de lutte pour l'abolition de l'esclavage, aujourd'hui nous célébrons la journée de lutte contre l'esclavage des enfants. Rappelons qu'elle a été instituée en 1995 suite au décès d'un jeune Pakistanais de 12 ans ayant tenté de dénoncer les mauvais traitements subis après qu'il eût été vendu pour rembourser une dette familiale. Chaque année, le 16 avril, la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants lui rend hommage, tout en rappelant une triste et terrible réalité. L'esclavage existe toujours et des millions d'enfants en sont victimes partout dans le monde. Les enfants représenteraient en effet plus de 10% du potentiel de la main-d'œuvre mondiale et contribuent chaque année pour plus de 13 milliards d'euros au PIB mondial. Mieux vivre en Occitanie. La commission permanente du 5 avril dernier a adopté la liste des 136 projets associatifs retenus contre toute forme de discrimination. Ainsi, on note la création d'un accueil de jour pour les femmes victimes de violences, la tenue d'une soirée débat pour déconstruire les stéréotypes filles-garçons, ou encore la création d'un spectacle visant à sensibiliser le public à la question des violences sexuelles au travail. Recommandée par le Conseil de l'Europe, cette nouvelle approche dans la lutte contre les inégalités entend ne plus se focaliser sur une seule discrimination. Une même personne peut en effet être victime de diverses discriminations du fait de son origine ethnique, mais aussi de son sexe ou de son orientation sexuelle. Les handicaps ne font alors que s'additionner. C'est la fin de ce Flash Info. À bientôt sur Radio Aviva.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est couvert sur la totalité du département. Les températures descendront à 16 degrés en moyenne en soirée et jusqu'à 9 durant la nuit à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Demain mercredi, le temps sera ensoleillé. Il fera 10 degrés à Agde le matin et 17 degrés à 7 l'après-midi. Je vous souhaite de passer une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes en compagnie de Émilie Vincent, chargée de l'organisation de la Semaine de la Terre qui a eu lieu du 2 au 9 avril dernier. Vous êtes venue aujourd'hui nous parler et nous présenter cette semaine. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter vous ?
Alors bonjour à tous. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Moi je m'appelle Vincent Émilie et j'organise, comme vous l'avez dit, la Semaine de la Terre. Je suis étudiant à l'Institut Agro de Montpellier. Et je fais partie d'une association qui s'appelle la GEMA. En gros, c'est la junior entreprise de l'Institut Agro. Je sais pas si vous êtes familier un peu avec ce concept de junior entreprise. Sinon, je peux le développer si vous voulez.
Oui, il n'y a pas de problème.
Du coup, c'est une association, qui permet, par la réalisation d'études, par des étudiants de l'école, ces études, demandées par des commanditaires, des entreprises. Et nous, on fait le lien, entre les étudiants de l'école et les entreprises. Et ça, c'est un peu le principe du junior entreprise. Et nous, à la GEMA, vu les enjeux climatiques actuels, on s'est engagé dans une démarche RSE. On l'a développée au fil des années. Et c'est dans cette objectif qu'on a créé, donc la Semaine de la Terre, qui a donc commencé l'année dernière, donc en 2023, et donc cette année notre mandat a décidé de la renouveler pour en faire une seconde édition. Et l'objectif, en fait, c'est qu'elle devienne pérenne sur le long terme.
Et pourquoi avoir créé cette semaine en particulier ?
On a créé cette semaine parce que on voulait non seulement sensibiliser nos adhérents, mais aussi tous les étudiants de l'école, et même, enfin là, on est en train de voir un peu plus loin, vu qu'on veut vraiment sensibiliser tous les étudiants de Montpellier, étudiants ou non, au vu des différents profils qu'on a eu, par exemple ce jeudi, jeudi dernier plutôt. Et donc cette semaine, en fait, elle est vraiment axée sur le développement durable, sur la transition socio-écologique. Et nous, il nous tient à cœur, en fait, de collaborer aussi avec les associations de notre école. Donc, par exemple, je pense à ISF, aux POT, donc des associations qui vraiment font partie de notre école, mais pas que. On collabore aussi, par exemple, avec l'Île des Possibles, je pense que vous connaissez, qui est une association qui est très engagée dans le zéro déchet. Et donc, oui. Voilà.
Comment est-ce que cette semaine a été animée par, comment est-ce que vous avez fait pour attirer du public? Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir être assez avoir beaucoup plus de choix possible?
Tout d'abord, on a essayé, enfin, vu qu'on travaille avec l'Île des Possibles, ils ont été financés par la Métropole et par le CROUS pour un projet zéro déchet. Et donc, du coup, on a eu certaines discussions avec la Métropole. Donc, ce qui nous a permis de faire passer l'info qu'il y avait la Semaine de la Terre qui arrivait. En termes de public, par exemple, au sein de l'école, on a commencé à communiquer, donc par les réseaux sociaux, par aussi des mails. Moi, j'ai envoyé des mails aussi, par exemple, à l'université de Paul Valéry, à différentes écoles, donc à l'école de chimie aussi de Montpellier. Et donc c'est comme ça qu'on essayait de toucher le plus d'étudiants possible. On a par exemple organisé aussi un concours d'éloquence avec deux sessions, donc une session supérieure et une session lycéenne. Et donc pour toucher les lycéens, on a donc contacté les vies scolaires, on a envoyé des mails donc au lycée afin de toucher ces lycéens. Et quoi d'autre aussi? Et après oui, on a fait aussi par exemple une intervention dans la faculté de droit. Auprès donc d'élèves en L3 et pour leur parler du coup du projet de la Semaine de la Terre et du concours d'éloquence en particulier.
Ce concours d'éloquence, quel était le sujet du concours ?
Alors du coup, il y en avait plusieurs. Nous, on a fait donc deux sessions, comme je le disais. On a fait une session lycéenne, donc le sujet était dérèglement climatique, responsabilité individuelle ou collective. Et pour le supérieur, on a voulu vraiment faire un concours d'éloquence, donc avec deux côté, on va dire, du sujet. Donc on a choisi une citation de monsieur Paul Valéry qui est que deux choses il faut ignorer pour agir. Et du coup, on a choisi aussi le sujet pendant, donc que deux choses il ne faut pas ignorer pour agir. Et donc les étudiants, en fait, ont pu traiter soit l'un soit l'autre, ce qui permet d'avoir des discours un peu plus riches finalement à la fin.
Je suppose que les deux étaient surtout penchés sur l'écologie.
Exactement. Les étudiants avaient donc des consignes, d'écrire un discours dans le cadre du développement durable, de la transition socio-écologique, et donc ne pas trop s'éloigner, parce que c'est vrai que ce sont des sujets assez larges.
Et vous avez parlé tout à l'heure de la journée du 4 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les deux éléments majeurs de cette journée?
Alors pour la journée du 4 avril, c'était en fait la seule journée de notre semaine qui était vraiment ouverte au grand public. Et donc nous, c'est avec notre association donc de la GEMA, on a organisé donc deux concours. Le premier, c'était un concours de l'école la plus engagée. Et en gros, le principe, c'est que des étudiants donc viennent présenter des projets qu'ils ont pu mettre en place ou qu'ils veulent mettre en place sur leur campus afin de le rendre plus durable. Et donc on a eu des étudiants très engagés qui, par exemple, on a eu le président de Thème 3 en visio, de l'université Paul Valéry. On a eu le président aussi du club DD de l'EN, l'école de chimie. Et donc ils nous ont présenté en fait leurs actions. C'était très intéressant de mettre en commun pour une fois ce qui se faisait d'un point de vue éco-responsable sur les campus pour voir ce qu'il se fait ailleurs.
C'est vraiment une belle initiative que vous avez eue quand même de pouvoir créer cette cette semaine de la Terre qui, j'espère, pourra être renouvelée dans les années à venir. Il y aura d'autres éditions.
Nous espérons. On va travailler dessus. Là, c'est vrai que cette année, les délais étaient un peu courts. Et c'est pour ça que nous, on va déjà commencer à réfléchir à la prochaine édition là, dès prochainement, pour que ça se construise plus en amont encore et qu'on puisse avoir beaucoup plus de participants et toucher encore davantage de personnes.
Il y a eu beaucoup de participants cette année ?
Il y a eu beaucoup plus de participants que l'année dernière. Ce qu'on peut noter, c'est après là, on est encore en train d'étudier les chiffres parce que c'était juste la semaine dernière, même pas il y a 5 jours. Donc on est encore en train d'étudier les chiffres et tout. Je pourrais pas exactement vous en parler, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu vraiment une diversité des profils dans le public. On a eu des retraités, on a eu des personnes actives, des professeurs, des étudiants. Et ça, c'est vraiment très riche de voir qu'il y a vraiment une diversité des publics qui étaient présents.
Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Mais merci de m'avoir invité.
Nous étions en compagnie d'Émilie Vincent, chargée de l'organisation de la Semaine de la Terre, qui a eu lieu du 2 au 9 avril dernier. Encore merci.
Merci à vous.
Votre émission est à présent terminée. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de la radio. À bientôt sur Radio Aviva.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
De sortir, de danser, de s'amuser, de vous détendre.
Rejoignez le club Aviva et profitez de cadeaux et d'invitations tout au long de l'année. Danse, festival, théâtre, concert, Radio Aviva met à votre portée le meilleur des sorties.
Inscrivez-vous sur le site www.radio-aviva.com pour rejoindre le club.
Ça fait des nuits, ça fait des jours, ça fait longtemps déjà. Après la pluie, après l'amour, ça fait un bruit comme ça. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Je me souviens, je me rappelle comme il marque sur le bras. Le lendemain, si tu m'appelles, c'est comme la première fois. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Ça dure depuis des mois. Ça dure. Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir, mais réponds-moi. Ça fait du bien, ça fait bizarre de partir de chez toi. On est trop loin, il est trop tard, on ne rentrera pas. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Ça fait 100 ans qu'on fait semblant et on ne s'en remet pas. On s'aime le vent, on s'aime souvent, mais on en reste là. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi, tu vois. Ça dure depuis des mois. Ça dure. Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir, mais réponds-moi. Et dis-moi, qu'est-ce que je suis? Ça fait tellement de fois. Qu'on se parle, qu'on se croise, qu'on se voit, qu'on y croit, mais qu'on se noie. Ça dure depuis des mois. 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 Ça dure. Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir, mais réponds-moi. Qu'est-ce que je suis? Et dis-moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir.
Hérosport vous présente le journal des sports sur Aviva. Le journal des sports, Sydney Bitton.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mardi sportif. On va faire le tour de l'actualité avec Sydney Bitton. Bonjour Sydney.
Bonjour Baptiste, amis sportifs, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à travers la vitre Notre ami Oscar, bonjour.
Et nous allons commencer ce journal des sports avec football, la Ligue 2, mise à jour du calendrier de la 32e journée.
Bien évidemment, hier soir, les Grenoblois sur leur terrain n'ont pas pu se départager avec Angers. Et les Angevins qui ont joué en défense et qui ont mérité ce match nul 0-0.
Et nous allons parler maintenant des Nationales, 29e journée, encore une mise à jour du calendrier.
Belle partie, belle victoire des Nancéens. Nancy qui a battu Martigues 3-2. Et Nancy qui grimpe doucement au classement.
Ligue des champions, quart de finale, match retour.
Quart de finale ce soir. L'équipe de Barcelone opposée au PSG. Au match aller, les Espagnols ont gagné 3-2. Maintenant, est-ce que ça va être possible de rattraper ces points en retard ? Difficile, difficile. Mais rien n'est impossible pour les Parisiens. On aura également la belle équipe de l'Atlético de Madrid qui se rend à Dortmund. Le match aller, Madrid avait gagné 2-1. Donc deux gros matchs à voir. Malheureusement, ça se déroule à la même heure. Donc il faudra choisir. Ben, nous choisirons-nous Barcelone-PSG.
Il est arrivé des pépins à Arthur Cazaux, le Montpellierain Sydney.
Ah, décidément, ce garçon n'a pas de chance. Nouveau coup dur. Il a eu un malaise à Miami. Blessé à la cheville à Barcelone, il passera des examens à Montpellier aujourd'hui afin de déceler la gravité de sa blessure. À Bucarest, sorti de Gaston et Bonzi au premier tour. Mais que faut-il faire ? C'est la loi du sport.
Et on est à presque 100 jours du départ des Jeux Olympiques 2024.
Monsieur,
on a hâte.
Le président de la République, hier, s'est rendu très optimiste, a déclaré pour la réussite des JO 2024, à 100 jours des JO 2024. Tout est en place, les installations des étrangers, équipes étrangères, les installations de nos athlètes et les installations sportives, doucement, ça chemine vers du beau.
Direction les terrains de handball de la Star League, la 25e journée.
Alors la 25e journée va nous donner ce soir un gros match, avec le retour de Panić. Montpellier, handball, se déplace à Chambéry. Donc, c'est un gros match où les Montpelliérains ont lourd à jouer, car ils souhaitent être les adjoints du PSG. En sera-t-il de même ce soir ? Et attendons, et le cours de handball nous le dira.
Le golf, les Masters.
Alors, les Masters, bien sûr, ont été remportés par l'Américain Scheffler Scotty, en Géorgie, qui remporte cette finale à Augusta.
Encore un sport de raquette, tennis de table, c'est la Coupe du Monde à Macao.
Un Montpellierain qui brille. Félix Lebrun a battu le Chilien Burkos. Au deuxième tour, il trouvera le Taïwanais Cheng Yu Kao. Et son frère entre en lice ce jour également. Donc bravo les frères Lebrun, bravo Montpellier. Car c'est deux garçons qui brillent dans ce tennis de table.
Mais pour terminer ce journal, futsal, c'est la préparation au mondial.
Eh bien oui, on attend ce grand match qui attend. Ukraine-France. Allez les Français, nous attendons une belle victoire de vous, mais reste à prouver. Amis sportifs, merci de nous avoir écoutés. Merci notre ami Baptiste à la technique. Et nous donnons rendez-vous à demain. Au revoir.
l'agenda, toutes les sorties et les loisirs dans les roues.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Un jeu de loi grandeur nature. Ce jeudi 18 avril, dans les jardins du château de Flaugergues, amusez-vous à lancer un dé géant et à devenir les pions de ce jeu de loi grandeur nature, tout en répondant aux questions que le maître du jeu vous posera. Une activité spécialement conçue pour les enfants. Concernant les prix pour y participer, le tarif est de 15€ pour les plus jeunes et de 8€ pour les accompagnateurs. Plus d'informations et réservations sur le site du château de Flaugergues. Daddy, c'est le nouveau nom du spectacle mis en scène par Marion Sieffer que les spectateurs pourront retrouver le 18 et 19 avril au théâtre Jean-Claude Carrière de Montpellier. Sensible au sujet touchant les jeunes générations, l'artiste signe avec cette nouvelle pièce un conte noir magistral. Mara, 13 ans, fuit la morosité à travers des univers virtuels étincelants, mais l'aventure pailletée virera au cauchemar quand elle se retrouvera enchaînée dans un jeu en ligne intitulé Daddy. Billets à partir de 17€, déconseillés aux enfants de moins de 15 ans. Trouble, l'art d'être en vie. Du 18 au 20 avril, tous les soirs à 20h30, retrouvez ce nouveau spectacle d'Anaïs Kaizouran au Trac Théâtre à Castelnau-le-Lez. Avec cette performance, elle garantit aux spectateurs une expérience unique à travers un voyage sensoriel et émotionnel. Concernant les tarifs, les billets sont à partir de 16€. Plus d'informations et réservations sur le site internet du théâtre. C'est la 10e édition du Marathon Photo. Organisée par la Galerie du Bar à Photo, cette édition aura lieu cette année le 20 avril. Les participants auront 9 heures et 9 thèmes pour produire le même nombre de photographies. Les photos gagnantes seront exposées à la Galerie du Bar à Photo à partir de juin. Pour clôturer cette journée du 20 avril, un apéro suivi d'une projection sont également prévus. La participation est au tarif unique de 10€. L'événement est ouvert à tous, amateurs ou experts. Il est même possible de participer avec un smartphone. Toute cave ouverte à Montpérou. Le dimanche 21 avril, retrouvez cet événement œnotouristique. Bonne ambiance et vins de qualité seront au rendez-vous. Plus de 20 domaines accueilleront le public dans différentes caves et de nombreuses activités seront proposées dans le village. Plus d'informations sur le site internet vin-montpérou.com. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
Vous cherchez un job ? Vous êtes sur la bonne fréquence. Les rendez-vous de l'emploi, Radio Aviva s'intéresse à votre avenir et vous propose 3 offres d'emploi.
Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'emploi. Comme tous les jours, je vous propose 3 offres accessibles sur le site France Travail. La première est un poste d'employé polyvalent de libre service à Vendargues. Pour ce CDI de 35 heures, vos missions. Vous serez en charge d'accueillir les clients et d'assurer l'organisation et la théâtralisation de votre rayon. Avoir le sens du service, travailler en équipe et être à l'écoute sont les compétences attendues. Débutant accepté. Pour les intéressés, le numéro de l'offre, 172-GZXX. La deuxième offre est un poste de secrétaire téléphonique médical à Montpellier. Pour ce CDI de 35 heures, vos missions. Vous serez en charge de prendre les rendez-vous ainsi que de réagir et de traiter les urgences. Faire preuve de curiosité, de rigueur et être à l'écoute sont les compétences attendues. Un an d'expérience exigée. Le numéro de l'offre, 172-KQCZ. Et pour terminer, la dernière offre est un poste d'assistant administratif à Montpellier. Pour ce CDI de 35 heures, vos missions. Vous serez en charge des contrôles de factures fournisseurs et de la gestion du standard téléphonique. Faire preuve de persévérance, d'autonomie et de précision sont les compétences demandées. Un an d'expérience exigée. Le numéro de l'offre, 172-JJFB. Voilà, c'est tout pour ces rendez-vous de l'emploi. Je vous souhaite du courage dans vos recherches. À bientôt sur Radio Aviva.
Vous cherchez un job ? Vous êtes sur la bonne fréquence.
Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai.
Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix.
Ce monde n'a plus d'âme.
Je crève.
J'ai plus cran.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement seul, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'aident.
On est tous des mêmes.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus cran. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire.
Je cherche la paix.
Tout miser pour toucher nos rêves.
Je cherche la paix.
Quitter l'enfer,
tout miser pour toucher nos rêves. je crève.
J'ai plus cran.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement seul, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'aident.
On est tous des mères.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus cran. Je cherche la paix.
Je cherche la paix. Le bonheur.
Quitte
l'enfer.
Ici si j'ai peur.
Je cherche la paix.
Écoutez Radio Aviva partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphone et tablette, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Montpellier, la radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. Il est venu rendre hommage aux maquisards de la Résistance et de la Libération. Emmanuel Macron a présidé une cérémonie à Vassion-en-Vercors dans la Drôme. C'est la première fois qu'un président de la République en fonction se rend dans ce village martyr. Après une visite de la nécropole nationale de la Résistance, le chef de l'État a prononcé un discours sur place. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, on a appris que la Russie sera bien invitée sur les plages de Normandie pour les commémorations liées au débarquement. Mais sans Vladimir Poutine, les organisateurs évoquent l'importance de l'engagement et des sacrifices des peuples soviétiques. La Russie pourra donc être représentée diplomatiquement, mais sans invitation pour son président. La cérémonie est prévue pour le 6 juin prochain. En finir avec la délinquance et l'immigration clandestine à Mayotte, le gouvernement a relancé ses actions contre la sécurité aujourd'hui. Une opération Place Net à Mayotte qui va mobiliser 1700 forces de l'ordre et qui doit durer jusqu'à la fin du mois de juin. Également, dans votre actualité, l'Iran promet une réponse sévère et douloureuse à la moindre action des Israéliens contre ses intérêts. Déclaration de la présidence dans un communiqué alors que l'État hébreu assure qu'il va riposter suite à l'attaque du week-end dernier. L'armée israélienne assure, elle, aujourd'hui que l'Iran ne sortira pas indemne après une telle agression. L'incendie de l'ancienne bourse de Copenhague est sous contrôle. Annonce des secours alors que les flammes ont ravagé ce bâtiment historique au cœur de la capitale danoise. Sa flèche de 54 mètres de haut s'est effondrée ce matin, rappelant les images de Notre-Dame de Paris en feu il y a 5 ans tout juste. Et enfin, on termine avec un mot de football. Le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Les Parisiens se déplacent ce soir sur la pelouse de Barcelone pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de la capitale qui s'est incliné 3-2 à l'aller la semaine dernière au Parc des Princes. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous.
Tout de suite, retrouvez l'actualité nationale et internationale de nos correspondants à Paris.
Bonjour Margot.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Israël a transmis aux pays arabes du Moyen-Orient un message selon lequel sa riposte à l'attaque iranienne sans précédent de samedi soir ne mettrait en danger ni leur population ni leur régime. Elle visera, d'après des responsables américains, les forces militaires iraniennes et les mandataires de Téhéran en dehors du territoire iranien et pourrait être imminente. Les détails avec notre correspondante sur place, Miri Maman.
Prends la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Miri Maman. Bonjour Miri.
Bonjour Elsa, bonjour à tous.
Israël travaille à une riposte à l'attaque de l'Iran et cette riposte, Miri, pourrait être imminente.
Oui, c'est en tout cas ce que croit savoir la presse américaine, hein. Plusieurs responsables américains et israéliens, cités notamment par le Wall Street Journal, ont indiqué que la réponse israélienne pourrait avoir lieu dans les prochains jours, voire les prochaines heures. L'objectif serait évidemment d'envoyer un message clair à l'Iran, mais sans faire de victimes. Selon la presse israélienne cette fois, il y a un autre signe qui prouverait que Tzal est sur le point de frapper l'Iran. L'opération de grande envergure prévue dans la ville de Rafah, vous savez, dans le sud de la bande de Gaza, qui était prévue d'ailleurs cette semaine, selon certaines sources, aurait été repoussée par Jérusalem, ce qui permettrait à l'armée israélienne de se concentrer sur sa nouvelle mission, c'est-à-dire sur l'Iran. Alors, on ne sait évidemment ni comment ni quand Israël va frapper l'Iran. Une chose est sûre, il y aura une riposte au tir de plus de 300 missiles et drones iraniens. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a affirmé hier, je le cite, « L'Iran fera face aux conséquences de ses actions. Nous regardons vers l'avenir, nous réfléchissons à nos démarches et ce lancement d'autant de missiles de croisière et de drones sur le territoire de l'État d'Israël suscitera une réponse », a encore déclaré le chef d'état-major de Tzahal. Il n'est donc pas question de ne pas riposter comme le voudraient certains alliés internationaux. Alors le porte-parole de l'armée israélienne a lui rappelé hier soir que les personnes qui ont été tuées dans la frappe israélienne sur une annexe du consulat iranien à Damas le 1er avril étaient des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution. Aucun civil ni diplomate n'a été touché. C'est important de le souligner puisque l'Iran, lui, visait tout Israël, même si ce sont des cibles militaires qui étaient prioritaires. Alors, les options sur la table sont nombreuses hein, pour Jérusalem. Elles vont d'une attaque contre les installations nucléaires du régime d'Hezbollah sur le sol iranien, mais aussi ça peut aller jusqu'à la cyberattaque de grande envergure qui n'impliquerait donc pas l'armée, les avions de l'armée. Alors, Israël subit, on l'a dit, de fortes pressions de la part de ses alliés américains, français et britanniques pour ne pas riposter ou du moins ne pas aller trop loin dans sa réponse. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rappelé hier que seul Israël déciderait de la marche à suivre. Il a appelé d'ailleurs ses alliés à continuer de se tenir aux côtés d'Israël.
Miri Mamane pour RCJ. Le président iranien prévient ce matin dans un communiqué que la moindre action d'Israël contre les intérêts de la République islamique d'Iran provoquerait une réponse sévère de Téhéran. Le ministre israélien des Affaires étrangères demande au monde entier d'imposer des sanctions contre l'Iran et de déclarer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. C'est en tout cas le sens d'une lettre qu'Israël Katz a envoyée à 32 pays. Il s'est aussi entretenu avec des dizaines de ministres des Affaires étrangères. Nous devons arrêter l'Iran maintenant avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il martelé. Nouvelle controverse pour la BBC International qui a été contrainte de modifier l'un de ses titres jugés ambigu sur son site internet relatif à l'attaque iranienne contre Israël. Elle a en effet utilisé le mot « objet » à la place de « missile » en écrivant que des objets ont été interceptés au-dessus de la ville. Le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Londres a exprimé son mécontentement, soulignant le caractère trompeur de ce terme. Après cette agression iranienne, Joe Biden dit vouloir éviter un embrasement au Moyen-Orient tout en affichant son soutien inébranlable à son allié israélien. Le porte-parole de la Maison-Blanche ajoute qu'Israël décidera lui-même s'il doit réagir face à la République islamique d'Iran et de quelle manière. Enfin, le secrétaire d'État américain Antony Blinken précise que Washington continuera à protéger ses effectifs dans la région. L'armée jordanienne déclare ce matin dans un communiqué avoir intensifié ses patrouilles aériennes. L'objectif, empêcher toute infiltration dans le ciel du royaume. Amman précise que cette mesure confirme sa position de ne pas autoriser l'utilisation de son espace aérien et cela par n'importe quelle partie et à n'importe quelle fin. Tzahal a largué des tracts demandant aux populations civiles de ne pas tenter de retourner dans le nord de Gaza, toujours considérée comme zone de combat dangereuse où l'armée continue de lutter contre les groupes terroristes. Par ailleurs, les habitants de Beit Hanoun, la ville la plus au nord de Gaza, ont débuté leur évacuation vers le sud du pays. Le Hamas, qui a présenté une nouvelle proposition d'accord, ne serait plus disposé qu'à libérer 20 otages, soit la moitié de ce que prévoyaient les derniers textes présentés par le groupe terroriste. Par ailleurs, le Hamas exigerait tout d'abord un cessez-le-feu permanent et le retrait total de l'armée israélienne dans la bande de Gaza sans aucune libération dans la première phase de l'accord. 533 camions d'aide humanitaire sont entrés en deux jours à Gaza via les points de passage de Kerem Shalom et de Nitsana. 56 colis alimentaires ont aussi été largués hier. L'aide a considérablement augmenté à Gaza. C'est félicité la Maison Blanche qui précise que cela doit continuer. C'est au tour d'EasyJet de suspendre ses vols à destination et en provenance d'Israël jusqu'au 21 avril. Des décisions similaires ont déjà été prises, notamment par Lufthansa, United Airlines, Swiss International Airlines ou encore Austrian Airlines. Le gouvernement belge a déclaré hier vouloir révoquer le statut de réfugié à Mohamed Khatib, coordinateur en Europe de Samidoun, une organisation controversée proche des groupes islamistes palestiniens. Elle a d'ailleurs été interdite en Allemagne après avoir célébré l'attaque du 7 octobre. La secrétaire d'État belge à l'asile et à l'immigration annonce avoir demandé au service de l'immigration de retirer son statut à celui qu'elle qualifie de prédicateur de haine extrémiste. Le Portugal n'est pas prêt à reconnaître un État palestinien sans une approche concertée de l'Union européenne et des Nations unies. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre portugais à son homologue espagnol qui tente de rallier des soutiens à cette initiative. Après des mois de différends politiques entre l'administration de Joe Biden et ses opposants républicains, la Chambre américaine des représentants votera finalement cette semaine sur des projets séparés d'aide à l'État hébreu et à l'Ukraine. Une enveloppe de 60 milliards d'euros pour Kiev est notamment bloquée au Congrès depuis plusieurs mois. C'est un procès historique qui s'est ouvert hier, celui d'un ancien président américain, Donald Trump, devant la justice pénale. S'il a dénoncé à son arrivée une persécution politique inédite, il précise, après une première journée d'audience, avoir, je cite, un vrai problème avec le juge qui la préside, tout en affirmant qu'il n'aura pas droit à un procès équitable. Il est pour rappel accusé d'avoir acheté le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation sexuelle en 2016, juste avant les élections. L'ancien locataire de la Maison Blanche est également visé par 34 chefs de falsification de documents en vue de commettre un autre délit lié au financement de sa campagne. L'Agence internationale de l'énergie atomique se dit inquiète au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijjia, récemment victime d'une série d'attaques de drones. Nous nous approchons dangereusement d'un accident nucléaire, a fait savoir son directeur général Raphaël Grossi. Il estime que même si les 6 réacteurs sont à l'arrêt, les dangers potentiels d'un accident nucléaire majeur restent bien réels. Un prêtre a été poignardé à l'arme blanche hier dans une église de Sydney en Australie. 3 autres personnes ont été blessées. Les faits se sont produits alors que la cérémonie était retransmise en direct. Un suspect de 16 ans a été arrêté. La police australienne parle d'un acte terroriste. Des émeutes se sont ensuite produites à l'extérieur du bâtiment entre policiers et manifestants voulant entrer dans l'édifice pour lyncher l'adolescent. Le chef du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud lance un appel au calme. Le Français Damien Guéraud, qui est intervenu samedi lors de l'attaque dans un centre commercial de Sydney, se verra offrir la citoyenneté australienne, a annoncé ce matin le Premier ministre australien. Il avait affronté l'assaillant de 40 ans souffrant de troubles mentaux sur un escalator pour l'empêcher de faire d'autres victimes. Lui ainsi qu'un autre compatriote, Silas Despro, se sont comportés en véritable héros, a salué Emmanuel Macron. Au total, 5 femmes et un agent de sécurité pakistanais ont été tués. La célèbre flèche de la bourse de Copenhague, haute de 54 mètres, s'est effondrée ce matin. Cela fait suite à un violent incendie qui a touché le bâtiment historique de la capitale danoise. Il avait été construit entre 1619 et 1640. Aucune victime n'a été dénombrée. Emmanuel Macron se rend ce mardi dans le Vercors pour lancer les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Le chef de l'État est attendu à Vassy-en-Vercors, un petit village entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera le premier président à y prononcer un hommage. La cérémonie d'allumage de la flamme olympique des JO de Paris a débuté ce matin à Olympie en Grèce. 600 relayeurs se passeront ensuite pendant 11 jours à cette flamme, parmi eux la nageuse Laure Manaudou qui se dit honorée d'être la première relayeuse française. Après sa défaite 2-3 lors du match aller de la semaine dernière au Parc des Princes, le PSG est condamné à l'exploit ce soir face à Barcelone pour accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions. La rencontre est à suivre dès 21h sur Canal+ et RMC Sport.
On retrouve tout de suite Aurélien Veil qui nous parle des 80 ans, l'anniversaire, triste anniversaire cette année, de la rafle des enfants d'Isieux.
Le billet d'humeur, Aurélien Veil.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. C'est une photo en noir et blanc, prise en extérieur.
dont l'éclairage lumineux ravive les contrastes. On y voit une vingtaine d'enfants, encadrés par une poignée d'adultes. La plupart regardent l'objectif, sagement accroupis dans l'herbe, devant un mur de pierre sous des frondaisons ombragées. Deux enfants debout se distinguent. Tout à droite, un adolescent élégant, en veston, tient dans la main un ballon qu'il retient de s'envoler. Et tout à gauche, un autre adolescent, aussi dégingandé que son compère est sérieux, les mains gantées, un couvre-chef ridicule sur la tête, arbore un large sourire, dans une posture joyeuse et enjouée, qui dénote par rapport à la pose un peu scolaire, presque académique, des autres modèles. Cette photo ancienne, c'est celle des enfants d'Izieux. Ils s'appelaient Samy Adelsheimer, Jean-Paul et Max-Marcel Balsam, Élie et Esther Benassayag, Jacques, Jean-Claude et Richard Benguigui, Magère et Albert Bulka, Maurice et Liliane Gerenstein, Claudine et Mina Alaun-Brenner, Georgi Alpern, Max Leiner, Claude Levent-Heffmann, Gilles Sadowski, Sigmund Springer, Sarah Sulklapper, Henri Verdier, Otto Wertheimer, Emile Zuckerberg. Ils étaient 44 enfants réfugiés à Izieux, petit village dans le département de l'Ain. Ils avaient entre 4 et 17 ans. Ils ont tous été assassinés par les nazis à Auschwitz en Pologne et à Reval, désormais Tallinn, en Estonie. Assassinés avec leurs 6 accompagnateurs, Lucy Feiger, Mina Friedler, Moïse et Eva Reifmann, Sarah Levan Reifmann, Miron Zlatin. Seule Léa Feldblum, 25 ans, a survécu. Tous assassinés parce que juifs. La maison d'Izieux ouvre au printemps 1943 quand Slabine Zlatin, infirmière juive polonaise réfugiée en France avant la guerre, cherche un refuge pour des enfants juifs de Lodève, dans le département de l'Hérault, où les rafles se multiplient. Je l'ai rappelé l'autre jour, entre novembre 1942 et septembre 1943, la zone d'occupation italienne Alpes, rive gauche du Rhône, Côte d'Azur, est un refuge pour les juifs que pourchassent Vichy et les nazis. Aussi, Sabine Zlatin et son mari Miron, créés dans cette zone reculée du Bugey avec la complicité de Pierre-Marcel Wiltzer, sous-préfet de l'Ain, un lieu d'accueil pour les enfants. Jusqu'en janvier 1944, 105 enfants résident dans la colonie, dont l'existence n'est pas secrète. Elle est déclarée à l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, organisme créé par le gouvernement Pétain pour centraliser la représentation des Juifs de France. Le séjour des enfants dans la maison-refuge dure de quelques semaines à plusieurs mois. Mais au printemps 1944, alors que la défaite des armées allemandes se précise, les persécutions nazies redoublent d'intensité. Le 7 janvier, le médecin de la colonie, le docteur Albert Bendrien, un juif originaire d'Oran, converti au catholicisme, est arrêté et déporté à Auschwitz. Le 8 février, la Gestapo perquisitionne les locaux de l'UGIF de Chambéry. Enfin, le 6 avril 1944, très probablement sur dénonciation, la Gestapo, aux ordres du SS Hauptsturmführer Klaus Barbie, débarque dans la maison, arrête les 44 enfants présents et leurs accompagnateurs, puis les transfère dès le lendemain au camp de Drancy. Sabine Zlatin échappe fortuitement à l'arrestation en raison du voyage qu'elle a entrepris dans l'Hérault, dans l'espoir de trouver un nouveau refuge. 42 des enfants d'Izieux et tous leurs accompagnateurs, sauf Léa Feldblum, ont été sélectionnés à la descente de leur train et assassinés à leur arrivée au camp d'Auschwitz. Le destin des 44 enfants d'Izieux est inextricablement lié à celui de ma famille. Parce qu'ils sont juifs. Parce que 34 des 44 enfants arrêtés le 6 avril ont été déportés de Drancy à Auschwitz dès le 13 par le convoi 71, où se trouvaient également ma grand-mère Simone, ma grand-tante Madeleine, dite Milou, et mon arrière-grand-mère Yvonne. Et que les deux plus âgés, Théodora et 16 ans et Arnold Hirsch 17 ans, ont été déportés avec Miron Zlatin vers Reval en Estonie, le 15 mai par le convoi 73, où se trouvaient également mon grand-oncle Jean et mon arrière-grand-père André, assassinés eux aussi à l'Est sans laisser de traces. L'officier nazi à l'origine de la rafle s'appelait Klaus Barbie. Il est traqué pendant des années par Serge et Beate Klarsfeld, aidé de Fortuné Benguigui et Ita Rosa Alaun-Brenner, mère d'enfants raflés à Izieux, avant d'être identifié en Bolivie, où il a fui avec l'aide des réseaux nazis et des services secrets américains. Extradé vers la France en 1943, il est incarcéré quelques jours à la prison de Montluc à Lyon, où il avait 40 ans auparavant martyrisé juifs et résistants. Puis il est jugé à partir de mai 1987 dans ce qui constitue le premier procès en France intenté pour crime contre l'humanité. C'est l'heure de l'audition des témoins par la cour d'assises que retentissent ces mots inoubliables et déchirants de Sabine Zlatin, par lesquels je conclurai cet hommage aux 44 enfants d'Isieux et à leurs accompagnateurs. Je veux vous dire, et je vais surtout dire à la défense de Barbie. Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi ? C'était des résistants ? C'était des maquisards ? Qu'est-ce qu'ils étaient ? C'était des innocents.
C'était le journal de nos correspondants à Paris. Tout de suite, retour des programmes sur Radio Aviva.
Hasta siempre, que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar. Soy al mismo tiempo ser y estar estrella. La gente de India me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, sol hijo de África. Du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot cuando la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio on se pavane et sec. Sex 6 jours sur 7 et qui n'a pas de prise de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Margarita Ortel Valera devrait être de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape. Seul, sans barillet, isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée mais bon, j'ai des valdas. Y'a des noirs, chouans, chanken et des gringos, des gringoles. Y'a des ponchos sous les sombreros. À contre-jour, Esmeralda DS. Les yeux pleins de liesse, sort du Pony Express. Elle me dit pas mon nose, je réponds yes. C'était Bonnie and Claude, dans Notre-Dame de Barbès. Hasta la vista, générique final. Hasta la proxima, on part vers l'ouest à cheval. Tout le monde se lève, il n'y a plus personne dans le ciné. Le film est terminé, mais j'entends chanter
journée de 6h à 20h, Radio Aviva renforce l'info avec des flashs locaux, nationaux et internationaux, 7 jours sur 7. Hérosport vous présente l'invité sportif sur Aviva.
Amis sportifs, bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une discipline qui malheureusement n'a pas toujours les honneurs de la presse, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. On va vous parler du sport boule, championnat de France, qui ont eu lieu à Béziers, France Tir 2024. Et nous avons le très grand plaisir de recevoir le directeur sportif de Balaruc, M. Bilon Emmanuel. Eh oui, bon. Eh oui. On va changer un petit peu parce que vous avez votre, votre collaborateur, M. Bidon, mais là, c'est M. Bidon. M. Bidon, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir.
Alors, dites-nous, bonjour à tous. Comment êtes-vous venu à cette discipline, les boules ?
Oh, tout simplement, je suis originaire de Lyon, donc le berceau de la boule lyonnaise. Et puis depuis l'âge de 8 ans, j'ai pratiqué, j'ai attaqué comme tout le monde, avec les Tugori jeunes, et puis après les équipes de France, puis des adultes, première division, et ainsi de suite, jusqu'à un jour à finir sélectionneur de cette équipe de France, et aujourd'hui directeur sportif à Ballaruque.
Alors dites-nous, vous êtes satisfait de votre équipe quand même, parce que ça a été un grand succès ce week-end dernier.
Ce week-end, oui, ça a été inespéré. On avait une grande chance de jouer les titres, mais de là aller remporter 3 titres majeurs dans les catégories principales, j'ai envie de dire le progressif masculin, le précision masculin et le précision féminin, c'est exceptionnel.
Alors, vous savez, on parle de championnat de France, de tir. Alors, expliquez-nous un peu, quelle différence y a-t-il entre la lyonnaise normale, avec pointeur, tireur, et la France tire?
Alors, c'est comme dans notre championnat, il y a deux championnats différents. Il y a un championnat traditionnel, comme vous venez de le dire, c'est les parties traditionnelles. J'ai envie de dire le pointeur, tireur, ainsi de suite, premier en 13, donc ça c'est la partie, j'ai envie de dire, traditionnelle. Et l'autre partie qui est vraiment sportive, alors là où les athlètes, c'est des vrais athlètes et qui s'entraînent physiquement 4 fois par semaine, 2 fois sur le technique et 2 fois sur le physique. Beaucoup de salles, et c'est vraiment des vrais athlètes et qui tirent sur 5 minutes en simple et qui tirent en 5 minutes relais. Alors ça peut être entre masculin ou mixte maintenant, puisqu'il y a une catégorie mixte qui est arrivée. D'ailleurs, le Guillaume Abelfaux, qui a été champion de France ce week-end, a été champion du monde et détenteur du record du monde il y a pas très longtemps en équipe de France, a été champion du monde et remet son titre en jeu au mois de mai. Voilà.
Eh bien, aussi féliciter Ophélie Armanet également.
Également, Ophélie Armanet, elle fait plusieurs spécialités. Normalement, elle fait aussi du physique. Elle a perdu en demi-finale et elle s'est attribuée la 3e place. Elle était, il n'y a pas si longtemps, vainqueur des Jeux mondiaux aux États-Unis. Voilà, elle fait partie de l'équipe de France. Elle est vice-championne du monde de relais aussi. Et là, comme elle était sur 2 spécialités, elle a rapporté une.
Alors, si vous permettez, Emmanuel, nous allons parler maintenant de la distance dans le jeu lyonnais pour le tir entre le point de départ qu'on ne doit pas franchir et l'arrivée où sont placées les boules à tirer.
Voilà, alors la distance, le terrain principal fait 27,50 m. Vous jouez entre 2 jeux qui font à peu près 19 mètres. Voilà, il y a 2 surfaces où on ne va pas souvent puisque c'est juste sur un déplacement de but. Mais ça, c'est que pour le secteur traditionnel. Pour tout ce qui est tir, ils tirent à peu près sur une distance de 20 mètres. Voilà. Allez, sur 5 minutes, le plus rapidement possible, ça veut dire que c'est des garçons qui, sur 5 minutes, tirent 50 boules, 51 boules. C'est déjà de la performance physique. Voilà.
Vous savez, vous me rajeunissez de quelques années hein, parce que j'ai été élevé au-dessus d'un boulodrome.
Ah bon.
et du boulodrome de la Lyonnaise.
Ah, très bien, donc vous devez être dans la région, alors non ?
Non, je suis d'Algérie.
Ouh, d'accord.
Et où il y avait d'accord. Des grands joueurs de Lyonnaise, des tireurs exact. Et des pointeurs extraordinaires.
Exact.
Alors dites-nous un petit peu, quels sont les prochains rendez-vous là ? Il y a des rendez-vous internationaux qui vont arriver alors, très bientôt ?
Le prochain rendez-vous qui va se passer, c'est à Saint-Vulbas du 7 au 11 mai. Il va y avoir le championnat du monde masculin et championnat du monde mixte. Donc nous, on a au niveau de Ballaruque, au niveau de sélection, on a Guillaume Abelfaux qui va disputer les 2 championnats mixtes, c'est-à-dire le tir de précision et le tir en relais. Et puis ensuite, nous avons la Coupe d'Europe. On a le tour préliminaire pour le club de Ballaruque, puisqu'on a fini 2e cette année à ce championnat. On fait le tour préliminaire de la Coupe d'Europe. Et donc, on attend notre adversaire. Alors, ça sera soit l'équipe du Luxembourg, soit l'équipe suisse. Et ça devrait se disputer le week-end du 15-16 juin. Et puis, s'il y a victoire, alors là, après, on rejouerait au mois de septembre, le 21 septembre et le 12 octobre. Alors, ou à Ballaruque ou à l'extérieur, bien entendu, suivant les tirages. Voilà. Pour l'instant, c'est les deux grandes lignes qui arrivent.
Alors, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, le joueur de boule de la Lyonnaise est un sport complet. Complet parce qu'il demande des qualités exceptionnelles, de détente, de force pour les épaules, travail des épaules, musculation. Et franchement, moi j'admire votre club avec tous les résultats que vous venez d'évoquer et le travail que vous fournissez.
Oui, bah ça c'est je crois que c'est un ensemble, hein. Je veux dire, le club de Valaruc, il n'y a pas que, j'ai envie de dire, les athlètes, le staff, voilà, il y a tous les gens autour. Faut pas oublier tous ces bénévoles qui sont là pour nous toute l'année. Et puis nos partenaires, bien entendu, la communauté de communes de cette agglopole, et puis la mairie de, bien sûr, de Valaruc, et bien sûr tous nos partenaires. Donc c'est un ensemble, on a un gros club. Mais on est un petit peu excentré par rapport à la région bouliste, donc c'est vrai que ça engendre beaucoup de déplacements. C'est pas facile. Voilà.
Eh bien, si vous permettez, Monsieur Bilon, Emmanuel, je vous donne rendez-vous à une prochaine échéance sportive de haut niveau. Et merci d'avoir nous avoir éclairé sur la Lyonnaise,
qui
reste vraiment une discipline extraordinaire. Merci beaucoup.
C'est gentil, au plaisir.
Au revoir. Au revoir. Merci.
Is it love? Is it love? Is it love? Without a